Merci. Bonjour à tous. Ce matin, on va s'attaquer à un petit verset, un petit verset de l'Épître aux Romains qui, moi, m'a un peu bloqué parce que si moi, j'avais écrit la Bible, moi, je ne l'aurais pas écrit comme ça. Je ne sais pas si ça vous arrive quand vous lisez la Bible, tout d'un coup, vous êtes là et vous dites « Mais ça, c'est bizarre ». Il a dû se tromper en écrivant. On devrait mettre les choses dans l'autre sens. On devrait utiliser un autre mot. Non, c'est que moi qui suis rebelle comme ça, face à la Bible, peut-être. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ils sont enfants de Dieu, on pourrait dire aujourd'hui. Je ne vais pas m'atteler aujourd'hui à chercher une distinction entre les sexes. Moi, j'aurais écrit ça comme ça. Quand tu es enfant de Dieu, alors tu seras conduit par l'Esprit. Pour moi, ma logique, ce serait celle-là. Un peu comme par exemple Galates 4, verset 6 le dit, « Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Là, ça correspond à ma logique. Parce que tu es enfant de Dieu, eh bien, alors, l'Esprit de Dieu est en toi pour te guider, pour t'accompagner. Moi, c'est comme ça que je comprends les choses d'habitude. Et là, dans ce texte, eh bien, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Moi, ça m'interpelle un petit peu, ça peut sous-entendre plein de choses là derrière. En tout cas, ça indique bien qu'il y a un lien très fort entre le fait d'être enfant de Dieu et le fait d'être conduit, d'être habité par son esprit. Il y a un lien extrêmement fort qui peut soit imaginer une conséquence parce que tu es enfant de Dieu, alors tu es conduit par son esprit, mais qui peut aussi donner l'idée d'une caractéristique, d'un signe distinctif des enfants de Dieu. Eh bien, ils sont conduits par l'esprit de Dieu. C'est un signe qui les caractérise, qui les différencie. Pour aller un peu plus loin là-dedans, on va être obligé de se plonger un peu plus globalement dans l'Épître aux Romains. Cette épître, elle est un peu particulière parce que c'est la plus longue qu'on a des épîtres. C'est la plus longue, et puis, dans ce sens-là, elle a une certaine importance. On dit qu'elle est écrite par Paul quand il était probablement à Corinthe vers la fin de son troisième voyage. On est probablement environ à 56 après Jésus-Christ. Cette lettre, elle est adressée aux Romains. Et ça, c'est quelque chose de particulier. En général, quand Paul écrit des lettres, eh bien, il s'adresse à des églises soit qu'il a fondées, soit qu'il a visitées, en tout cas des gens qu'il connaît, avec qui il a partagé des choses. Ce n'est pas des inconnus. Et là, rien n'indique qu'il connaît cette église. Rien n'indique qu'il connaît les croyants. Il en a peut-être rencontré certains, mais il n'est jamais allé à Rome au moment où il l'écrit. Et ça, c'est quelque chose de particulier. Et ça veut aussi dire que lui-même n'est pas connu par cette église. Ou certainement qu'il était connu parce que son aura, parce que son ministère l'avait précédé. Mais il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation entre les Romains et Paul. Et ça, ça indique quelque chose déjà dans ce qu'il va y avoir dans cet épître, dans ce texte. C'est comme si Paul, qui a envie d'aller à Rome, qui désire pouvoir aller sur place, eh bien, il a envie un peu de faire un peu une lettre de recommandation. En gros, il va dire, j'ai envie de venir chez vous. Voilà ce que je crois. Voilà ce que je prêche. Voilà comment je comprends l'œuvre de Christ. Il va présenter, en fait, en gros, sa théologie. Et c'est aussi ça qui rend cette lettre un peu atypique. C'est qu'il y a peu de livres dans la Bible qui présente de manière aussi globale, en fait, toute l'œuvre de Christ, peu de textes qui vont présenter une théologie presque complète dans un seul livre. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est le cas de l'Épître aux Romains. Et c'était, par exemple, Luther qui a redécouvert cette lettre et pour qui ça a été une révélation de se rendre compte de tout ce que Christ faisait, de l'œuvre de Christ, de la suffisance, de la foi, de la grâce dans nos vies. Concrètement, cet épître, on a deux grandes parties là-dedans. On a une première partie qu'on pourrait dire, on est vraiment des aspects de doctrine. Paul va présenter en fait son plan du salut, comment lui comprend le plan du salut dans les chapitres 1 à 11. Et puis la deuxième partie, les chapitres 12 à 16, on est dans des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus pratiques. Comme si Paul va encourager, ben voilà, en fonction de ça, voilà comment je vous encourage à vivre, à mettre les choses en pratique. Et puis, si je me concentre un peu sur cette première partie, les chapitres 1 à 11, on va voir les trois premiers chapitres, en gros, qui vont insister sur le péché, insister sur le fait qu'on est tous coupables devant Dieu, tous, toutes, sans exception. Et puis ensuite, les chapitres 3 à 5, oui, je sais, j'ai mis deux fois 3 parce qu'on est un peu entre les deux, qui va insister sur la justification par la foi. Et ce mot un peu barbare, justification, qui est tellement importante, il est tellement important ce mot dans ce livre, c'est vraiment l'idée qu'on est rendu juste par la foi, et non par la loi, non par la naissance, mais par la foi, on est rendu juste. Et les chapitres 6 à 8, qui vont insister sur notre liberté en Christ, parce qu'on était rendu juste par l'œuvre de Christ, eh bien on est libre, et en particulier, on est libéré de l'emprise du péché. Et puis on va avoir encore ces chapitres 9 à 11, qui parlent beaucoup de la question d'Israël. Qu'est-ce qui se passe pour ce peuple qui a reçu la révélation? Qu'est-ce qui se passe en lien avec toute cette question du salut par la foi? Comment on peut comprendre les choses? Et puis si je fais encore un zoom du coup sur le chapitre 8 qui nous intéresse aujourd'hui, on est dans cette partie vraiment qui parle de la liberté en Christ. Eh bien là, on va avoir les 13 premiers versets qui parlent vraiment de cette comparaison de la vie selon la chair, selon la nature humaine, selon notre propre nature, ou alors la vie selon l'Esprit de Dieu. Et puis les versets 15 à 17 qui vont parler de l'adoption, du fait qu'on est adopté par Dieu, qu'on est enfant de Dieu. Et puis la suite, versets 18 à 30, qui va parler de la souffrance présente et de la gloire à venir. Et ce magnifique chapitre se termine, versets 31 à 39, avec une magnifique assurance, proclamation de notre assurance du salut. Et vous verrez que, je ne sais pas si je l'ai mis comme ça, ah non, là je l'ai mis le verset 14, c'est un de ces versets qui fait un pivot, qui fait un peu une transition entre la vie par l'esprit et puis tout un passage sur l'adoption, sur le fait qu'on est adopté par Dieu. Et j'aimerais vous proposer de lire maintenant Romains 8, les versets 1 à 17. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre propre nature, mais conformément à l'Esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix. En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Et on voit ce verset 17 qui fait aussi une transition vers la suite. Je vous rappelle que la partie suivante parlait de la souffrance présente, la gloire à venir. Eh bien, ce verset 17 va faire une transition, comme souvent en fait Paul va le faire, ces versets qui indiquent déjà la suite. C'est de ces textes tellement riches qu'on pourrait les étudier pendant longtemps, qu'on pourrait en dire énormément de choses, parce que c'est des thèmes tellement importants. J'aimerais commencer par regarder un peu plus loin toute cette question de la filiation, du fait que nous sommes enfants de Dieu. C'est les versets 15 à 17 qu'ils disent bien « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi depuis le 15, vers ça. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être conduit encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. » Il y a une grande affirmation, Nous sommes enfants de Dieu. C'est une belle affirmation qui peut nous faire du bien. Ce n'est pas un doute, peut-être, êtes-vous, si vous faites ça, vous l'êtes, etc. C'est une affirmation. Nous sommes enfants de Dieu. Ça pose quand même un tout petit peu la question, c'est qui ce vous ou ce nous qu'on trouve dans le texte? C'est qui finalement les enfants de Dieu? Et là, on peut avoir un peu trois réponses dans la Bible à cette question. Tout d'abord, il y a l'humanité entière, créée par Dieu, et dans ce sens-là, qui est enfant de Dieu dans ce sens-là. Il y a des versets qui peuvent le suggérer, comme 1 Jean 3, « Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ». Alors certains vont discuter, est-ce qu'on parle là des croyants ou de l'humanité, mais il y a des textes qui peuvent indiquer, qui peuvent faire comprendre que toute l'humanité est enfant de Dieu. On voit aussi que Israël est appelé enfant de Dieu, le peuple d'Israël particulièrement, par exemple dans Jérémie 3, 14, ou 2 Corinthiens 6, 18, qui cite 2 Samuel, Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. » On voit que déjà dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, le peuple de Dieu était considéré comme enfant de Dieu. Et puis, il y a tous les croyants qui sont appelés enfants de Dieu. Et c'est typiquement le cas dans ce texte de Romains 8, où on voit cette filiation par la foi. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est Galates 3, 26 qui le dit ça. Et ça pose toute la question de cette adoption, qui dit bien qu'on est enfant par l'œuvre de quelqu'un. Il n'y a que deux manières d'être enfant, de devenir enfant. Soit on l'est par naissance, je suis enfant de mes parents parce que c'est ma mère qui m'a donné la naissance, parce qu'il y a quelque chose d'ordre génétique, je suis enfant. Et l'autre manière, c'est l'adoption. Par le décret de quelqu'un, par le choix des parents, par le décret, parce que c'est reconnu par d'autres, eh bien, on devient enfant. Il n'y a pas d'autre possibilité. Là, on nous a parlé d'adoption. Et ce n'est pas rien. Ça dit bien qu'il y a une action du Père d'adopter. Il y a un choix du Père de nous adopter, de faire de nous ses enfants. De la même manière que des personnes peuvent choisir d'adopter quelqu'un, de dire, ben, cet enfant sera notre enfant, parce qu'on le désire, parce qu'on choisit de le faire. Il y a cette action du Père et qui est attestée par l'Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va venir en nous faire cette action pour dire, ben oui, je reconnais Dieu comme mon Père. C'est parce que le Saint-Esprit fait cette action en moi, cette œuvre en moi, que je peux, qu'en moi, il est presque naturel, il est évident que je peux appeler Dieu mon Père. Mais cette adoption, ça me parle aussi d'une assurance. Le texte dit que l'Esprit convainc, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais le terme même d'adoption nous parle d'un acte légal. Quand une adoption est actée, eh bien c'est fait. On ne peut pas rendre l'enfant en disant « Ah mais je me suis trompé ». On ne peut pas changer ça. Tu deviens l'enfant de tes parents adoptifs. Avec toutes les conséquences que ça a, le texte là nous parle, tu deviens héritier. C'est fort, c'est pas juste. Tu as les mêmes droits qu'un enfant génétique, naturel. Mais ça dit aussi bien, c'est un état. Tu deviens enfant. C'est pas tu seras enfant si ou par moment tu seras un enfant. Non, c'est un état. Tu es l'enfant. Tu es fils ou fille. Et ça ne dépend pas de ce que tu ressens. Tu es un enfant. Mais le texte nous parle aussi d'un lien affectif. On peut appeler Dieu Abba Père. Ce côté affectif, dire pour appeler un Dieu notre père, notre papa, c'est aussi un effet de l'adoption. Il y a un aspect juridique, légal, officiel, il y a aussi un aspect affectif. Ça correspond à mon vécu. Ça correspond à mes sentiments, à ce que je ressens. Et tout ça, c'est ce que Dieu fait en faisant de nous ses enfants. Et c'est juste énorme de penser que cette action, Dieu choisit de la faire pour nous. Et ça a des conséquences juste magnifiques, à commencer par la vie éternelle qui nous est offerte, que Dieu offre à ses enfants sur la base de l'œuvre de Christ à la croix. Et ça, c'est un cadeau juste énorme qui nous est accordé. Mais la conséquence de ça, c'est que je peux connaître le Père. Je peux connaître mon Père personnellement. Et ça fait grandir en moi un désir de plaire à mon Père. Et tout ça, c'est les conséquences de l'adoption de Dieu envers nous. Ça, c'est rapidement brosser un peu le portrait de ce que ce texte nous dit sur la filiation, sur l'adoption, le fait que nous sommes fils et filles de Dieu. Maintenant, il faut s'attaquer à la deuxième partie qui parle, enfin la première dans Romains 8, 14, qui parle d'être conduit par l'Esprit. On voit dans toute la première partie de Romains 8 que c'est basé sur cette opposition entre le fait d'être guidé par la chair, par la nature humaine, notre propre nature, ou guidé par l'Esprit. Galates 5, 16 dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Et Galates 5 va décrire un peu plus ce que c'est marcher selon la chair, marcher selon la nature humaine. Il y a une longue liste de choses qui nous parle de sexualité, de tous les aspects lors de la sexualité qui déplaisent à Dieu. Aujourd'hui, on peut parler de pornographie, on peut parler d'adultère, on peut parler de tous ces aspects qui nous éloignent de Dieu, tous ces aspects au niveau de notre sexualité qui vont déplaire. Galates 5 nous parle aussi de nos mauvais comportements, d'un comportement qui est centré sur soi, qui va détruire. Il parle aussi de relations mauvaises, de relations méchantes, de relations qui détruisent les autres, de relations qui montrent un esprit jaloux. Il nous parle aussi d'alcool, peut-être même de dépendance. Il nous parle d'autres spiritualités. Toutes ces choses-là, ces œuvres de la chair, eh bien, qui ne sont pas très éloignées, bien souvent, de ce qu'on peut vivre, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est les œuvres de la chair. Ça, c'est marcher selon la chair, marcher selon ma propre nature. Heureusement, s'il nous est dit qu'on est adopté, il nous a aussi dit qu'on peut marcher selon l'Esprit. Et l'Esprit va venir agir en nous, va venir nous travailler. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Dans la marche selon l'Esprit, ça ne veut pas dire « fais tout ce qu'il faut pour que ton comportement, ta marche, ta vie correspondent à ce que Dieu veut. » Non, ça nous est dit, marcher selon l'Esprit, c'est-à-dire laisse l'Esprit travailler en toi. Laisse l'Esprit faire de belles choses dans ta vie. Et si on a, dans Galates 5, 19 à 21, cette liste des choses mauvaises, des choses que notre propre nature humaine produit en nous, on a Galates 5, 22, cette belle liste de ce que l'Esprit produit en nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et c'est ça que dans Romains 8, on va trouver par exemple comme terme, marcher selon l'Esprit ou se conformer à l'Esprit. Et la seule manière de le vivre, c'est de laisser le Saint-Esprit travailler dans nos vies, dans nos cœurs. Ici, on parle de sanctification. Cette marche selon l'Esprit nous parle aussi de Dieu, du Saint-Esprit, comme un conseiller, comme un guide, comme quelqu'un qui peut nous montrer le chemin, nous guider. Et ça, on va aussi trouver plein de textes dans la Bible qui vont nous dire ça. Par exemple, le psaume 143, verset 10. « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Romains 8 nous parle de dépendre de l'Esprit. Et s'il y a cette marche selon l'Esprit, ce n'est pas juste quelque chose de miraculeux qui va se faire en moi sans que je fasse rien. Et il y a aussi ma propre volonté qui décide de me mettre à l'écoute de Dieu. Qui décide, oui, je veux comprendre ce que là où Dieu me guide, là où Dieu me mène. En premier lieu, de manière à ce que je puisse comprendre ce que Dieu cherche à me dire dans la Bible, mais aussi dans mon quotidien, pour être à l'écoute de ce que Dieu, par son esprit, cherche à me dire. C'est par exemple ce que Paul et ses compagnons ont vécu dans Actes 16, où ils cherchent à aller dans un endroit et c'est dit que l'esprit ne leur permet pas d'aller là-bas, qu'ils ont été empêchés par l'esprit. Ils vont avoir ensuite une vision, tant de manières où ils se mettent à l'écoute de ce que Dieu veut dire. Et marcher selon l'esprit, ça va être laisser Dieu travailler en moi, ça va aussi être chercher consciemment la direction que Dieu me donne. Mais dire ça, c'est presque être un peu trop simple, un peu trop simpliste. Parce que je dis que Dieu, le Saint-Esprit, va pouvoir me guider, me dire le chemin. Mais alors comment je vais pouvoir distinguer qu'est-ce qu'est de l'ordre du Saint-Esprit qui me guide et qu'est-ce qu'est de l'ordre de ma propre nature qui cherche mon confort, qui cherche à me mettre en avant ou qui cherche juste à... qui cherche à me faire avancer de son côté. Et c'est notre grand dilemme en tant que croyant. C'est notre grand dilemme. Cette distinction entre être conduit par l'esprit ou par ma propre nature, eh bien, il y a des fois où c'est très clair. Il y a des fois où c'est très clair. C'est le cas de beaucoup de péchés que j'ai pu énumérer tout à l'heure, qu'on voit dans Galates 5. Mais parfois, c'est plus délicat. C'est plus délicat. Et la seule manière de savoir où j'en suis, on va aussi la trouver dans Romains 8. Il est dit que marcher selon la chair, ça mène à la haine de Dieu. Autrement dit, la manière de savoir que je suis guidé par Dieu, par le Saint-Esprit, c'est l'attachement. C'est l'attachement que j'ai envers Dieu. Quelque part, c'est comment est-ce que moi-même je me comporte en fils. Pas juste parce que c'est l'état, c'est ce qui est indiqué sur ma carte d'identité. Non, je me comporte comme un fils qui aime son père et qui cherche à avancer avec lui. Et si je me comporte comme un tel fils, comme une telle fille, à ce moment-là, je sais que l'Esprit habite en moi. Et je sais, je peux proclamer que je suis conduit par son Esprit. La question, elle est, comment es-tu attaché à ton Père? Et parfois, on se focalise beaucoup sur être conduit par le Saint-Esprit et par demander à Dieu, mais guide-moi, montre-moi le chemin, réponds-moi. Dis-moi si je dois aller à droite ou à gauche, dis-moi si ça c'est ok ou pas. Et je pense que quand on est focalisé là-dessus, on se trompe de cible. C'est un bon désir. Mais la cible, c'est de se comporter en enfant de Dieu. La cible, le but, c'est de vivre en enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de réponse, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher à plaire à Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas chercher à être conduit par l'Esprit. Ça veut simplement dire qu'être conduit par l'Esprit, c'est en même temps une conséquence de cet état que j'étais adopté, mais c'est aussi une caractéristique. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est de vivre en enfant de Dieu. D'être attaché à Dieu. Et c'est là-dessus que j'ai envie de terminer. Je vous invite à prier. Bien, Père, loué sois-tu. Béni sois-tu parce que parce que tu as fait de moi, parce que tu as fait de nous tes enfants. C'est juste un cadeau énorme. Et je n'ai rien fait pour mériter ça. Mais rien de ce que je fais aujourd'hui ne peut enlever cet état. Je suis ton fils. Béni sois-tu pour ça. C'est juste tellement bon. D'être ton enfant. Et moi, j'ai envie de répondre à ton œuvre en criant « Abba Père », en criant « Tu es mon Père », en proclamant ça, cette vérité, mais en proclamant aussi mon attachement vers toi. Je demande que tu nous bouscules pour qu'on se comporte comme tes enfants et pas comme des enfants indignes qui cherchent à te rejeter, à profiter de toi. Moi, je te remercie aussi parce que tu ne t'es pas contenté de faire de nous tes enfants. Tu as envoyé ton esprit qui aujourd'hui nous guide, qui aujourd'hui nous rend meilleurs, qui nous permet d'avancer avec toi, qui nous permet de te plaire et de te plaire toujours plus. Moi, je te demande de nous rendre sensibles à ce que toi, tu nous transmets. Comme un père parle à ses enfants. Pour qu'on puisse avancer toujours plus unis à ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.